France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13-14. Au sommaire aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura-t-elle lieu sur la Seine? Il y a un plan B et même un plan C, dit Emmanuel Macron, en cas de menace terroriste, le Trocadéro ou le Stade de France. C'est la première fois qu'un scénario d'urgence est aussi précisément évoqué à presque 100 jours de la cérémonie. Le dôme de fer a fonctionné et les alliés ont aidé Israël à déjouer l'attaque de l'Iran ce week-end. La presse israélienne y voit ce matin une conséquence politique. Benjamin Netanyahou en sort renforcé.
Je pense qu'il a bien pris les choses en main, même si nous, on ne le soutient pas du tout personnellement. On peut dire que le gouvernement a assuré.
Voilà cet habitant de Tel Aviv qui se sent en sécurité, un sentiment qui avait volé en éclats le jour de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Nous sommes à New York en direct pour l'ouverture historique du premier procès pénal de l'ancien président Donald Trump, mais aussi sur le chantier de Notre-Dame. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Hélène.
5 ans après l'incendie, les travaux entrent dans une phase décisive.
Course contre la montre pour rouvrir la cathédrale au public le 8 décembre. Le délai sera tenu, assure-t-on sur le chantier.
À 13h30, alors qu'une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid démarre aujourd'hui. Pour les 80 ans et les personnes fragiles, nous recevons Gaëtan Thomas. Il est historien de la médecine et des sciences. Il publie Vaccination, histoire du consentement, qui est le récit d'une adhésion, mais aussi celui d'une contestation. Vos questions, 01 45 24 13 24 7000. 13h45, il n'y a pas que Disneyland ou le parc Astérix. Dans la vie, nous sommes à Nigloland toute la semaine.
C'est un grand 8, comme une rivière canadienne, où on a un splash à la fin en bateau et on prend un peu d'eau. On espère divertir les gens au maximum. Allez, accrochez-vous, c'est parti.
Voilà la réussite d'un parc d'attractions familial en plein cœur de la forêt de l'Aube. 13h50, c'est la France. Nous serons à Giverny pour célébrer les 150 ans de l'impressionnisme. Et puis juste avant 14h, le meilleur de C'est une chanson cette semaine. Josiane Balasco demande Édith Piaf. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
Inter.
Les Invalides pour le tir à l'arc, le Champ de Mars pour le beach volley ou le Grand Palais pour l'escrime et le taekwondo. C'est là que le chef de l'État s'est affiché en chef de chantier ce matin, à presque 100 jours des Jeux Olympiques, pour marteler que tout sera prêt. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Même s'il confirme pour la première fois que deux solutions de repli se dessinent pour la cérémonie d'ouverture.
Alors le président avait déjà évoqué des scénarios alternatifs, mais il n'avait jamais parlé aussi clairement de plan B et de plan C. Et surtout, en effet, pour la première fois, il donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler cette cérémonie d'ouverture en mode dégradé.
On fera une analyse en temps réel, et donc on a une cérémonie, pour tout vous dire, hein, on a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple, et donc on ne ferait pas toute la scène si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voir qui rapatrierait dans le Stade de France.
Emmanuel Macron, invité de BFM TV ce matin, qui se veut malgré tout rassurant, très rassurant même, quand il répond à une téléspectatrice qui ne veut pas que son fils se rende à la cérémonie.
S'il y a un endroit où votre fils sera en sécurité, c'est là, j'essaie de vous expliquer pourquoi. On va cribler tous les gens qui rentrent et qui sortent. 8 jours avant, ça va être complètement bouclé. Il y aura des systèmes de drones, de codage, de protection cyber. Et on a des forces de l'ordre qui sont mobilisées à un niveau absolument exceptionnel.
On va faire une très grande cérémonie d'ouverture. On pourra se baigner dans la Seine. J'ai confiance dans les syndicats pour ne pas perturber les Jeux. Je veux que la France soit dans le top 5 au tableau des médailles, a aussi dit le chef de l'État, qui se démène donc pour couvrir un peu le vacarme des critiques et des menaces autour de ces JO.
Simon Le Baron depuis le Grand Palais, je me tourne vers vous. Bonjour Nathalie Yanetta.
Bonjour Hélène, bonjour.
Directrice des sports de Radio France. Parce que ce qu'on retient de l'intervention d'Emmanuel Macron ce matin, ce sont ses plans B et C pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Normalement, ce sera sur la Seine, faut le rappeler, le 26 juillet prochain. Mais en cas de menace terroriste donc, on comprend qu'il y a la possibilité d'une cérémonie plus réduite sur le Trocadéro, voire au Stade de France. Est-ce que c'est jouable ça, Nathalie?
Alors la cérémonie à minima au Trocadéro, oui, ça c'est un format bis, alors vous l'appelez B, comme l'a dit le président, si vous le souhaitez. Ça c'est très clair, c'est une manière en fait de rétrécir d'une certaine manière le périmètre à sécuriser, et ce sera quand même une cérémonie artistique. En revanche, l'évocation du Stade de France, elle n'est pas viable au sens où nous entendons une cérémonie d'ouverture. Pourquoi ? Parce que le Stade de France, ça sera une solution de repli, mais ça pourra être le cas aussi du village olympique. Ce sont des choses qui sont statuées dans la charte du CIO. Ce serait uniquement une cérémonie protocolaire. Ça veut dire quoi? C'est quelques minutes, le président du CIO qui fait le discours institutionnel, le président du pays hôte, en l'occurrence cette fois-ci Emmanuel Macron, qui déclare ouvert cette Olympiade, et le serment des athlètes. Point final. C'est-à-dire que si on en arrive à aller se rapatrier d'une certaine manière au Stade de France,
c'est l'urgence absolue.
C'est qu'il y a menace sur les Jeux, en fait. Il n'y a pas menace que sur la cérémonie. Hein.
Et il y a peu de chances que ça se produise. C'est le Trocadéro qui est le plan B véritable.
Alors, c'est le vrai plan B en cas, encore une fois, de très très grandes menaces que les services de renseignement du monde entier, évidemment, essayent d'évaluer et ajusteront jusqu'à la dernière minute, évidemment. Mais cette cérémonie, le président de la République l'a rappelé, d'ailleurs, elle doit se faire sur ces 6 kilomètres. La France est capable d'organiser une telle cérémonie d'une telle envergure, même si ce sera du jamais vu.
Emmanuel Macron le rappelle alors qu'on est à presque 100 jours.
Hein, 102 aujourd'hui.
102 jours aujourd'hui de la cérémonie d'ouverture, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des épreuves qui vont commencer un petit peu avant la
le
cérémonie
24,
d'ouverture.
Et c'est en partie, pardon Hélène, la raison pour laquelle le Stade,
Stade
de France,
c'est pas possible.
Ça sera compliqué.
Parce qu'il y aura déjà eu des épreuves le jeudi et puis
le vendredi et le samedi.
Ouais. Et si on regarde du côté sportif justement, Nathalie, ça fait quel effet aux athlètes là, de se retrouver à presque 100 jours du début des Jeux?
Alors déjà, ça va commencer dès demain. La France va récupérer la flamme olympique. Ça, c'est vraiment le symbole du début des Jeux. Et puis mercredi, au Grand Palais éphémère, le petit frère jumeau qui a été construit de l'autre côté de la Tour Eiffel, eh bien là, ce sera un J-100 avec tout. Une grande partie des athlètes à la fois olympiques et paralympiques. Il reste deux moments pour les athlètes. Ceux qui ont déjà leur billet en poche, va falloir qu'ils prient pour ne pas se blesser, parce que quand tu te blesses à J-100, les Jeux, c'est finito. Et sinon, les autres, il leur reste quelques épreuves pour pouvoir décrocher leur billet. C'est le cas, par exemple, de Kevin Mayer ou de Renaud Lavillenie qui ne sont pas encore qualifiés.
Et les Jeux avant les Jeux, c'est avec vous. Merci Nathalie. Yaneta, vous restez avec nous juste une minute, parce que ces Jeux ont une ambition très forte en matière d'empreinte carbone. Le comité d'organisation veut la diviser par deux par rapport aux dernières Olympiades. 3,5 millions de tonnes à Londres en 2012, par exemple. À croire l'ONG Carbon Market Watch, qui fait le compte aujourd'hui. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
On n'y est pas tout à fait.
Non, les organisateurs ratent le podium, même s'il y a eu de gros efforts pour verdir ces JO, reconnaît l'ONG, comme le village olympique éco-responsable, ses matériaux bas carbone, ses 9000 arbres ou encore ces grosses machines en forme de soucoupe volante pour filtrer la pollution de l'air. Autre point positif souligné par l'ONG, Paris 2024 a limité les constructions neuves, stades, pistes, terrains, cours de tennis. Les JO vont réutiliser une majorité d'infrastructures existantes ou temporaires. Mais le gros point noir reste les transports pour faire venir les millions de spectateurs des quatre coins du monde. Les transports représentent 40% des émissions de CO2, d'après Gilles Dufrane, l'un des responsables de Carbon Market Watch.
L'effort qui est réalisé, il est tout à fait louable, mais il y a des sources d'émissions qui sont très très grandes, comme par exemple le transport aérien pour faire venir tous les spectateurs jusque Paris. Tant qu'on continue à rester dans le modèle qui est proposé, qui est d'organiser un événement vraiment de taille extrêmement grand à un endroit très précis, ça paraît très très compliqué de rendre cet événement compatible avec les objectifs de l'accord de Paris et de réduire les émissions de façon suffisante.
Et selon cette ONG, la seule solution pour obtenir une médaille d'or et écologique, c'est de repenser radicalement l'organisation des JO. Je vous livre son idée. Eh bien, ce serait de répartir les épreuves sportives à travers le globe. Alors, par exemple, le football en France, la natation au Kenya, le tir à l'arc en Chine, remplir les stades avec un public régional et ainsi éviter les déplacements de foule d'un bout à l'autre de la planète.
Ça aussi, ce serait une organisation assez complexe. Merci Sandy Dauphin, divisé par deux.
Ça s'appelle des championnats du monde, ça existe déjà. Et non, ça ne réduit pas l'impact carbone, vous savez ce qu'on dit, un événement sportif. Ben oui, un événement sportif de cette envergure qui ne pollue pas, c'est un événement qui n'a pas lieu. Donc voilà, il faut saluer Sandy et cette association l'ont dit, les efforts qu'on fait Paris 2024, mais bien sûr que ça ne peut pas être à zéro impact carbone malgré toute la bonne volonté.
Nathalie Yaneta, directrice des sports de Radio France, et j'en profite pour annoncer le nom de deux nouveaux consultants Radio France pour la période des Jeux Olympiques, deux anciens ministres des sports.
Entre autres, parce qu'ils seront 15, mais oui, Jean-François.
Médaillé, champion, Roxana Maracineanu et Jean-François Lamour.
Entre autres.
Merci à vous, Nathalie Yaneta.
France Inter, le 13-14. Hélène Philly.
Ce sera l'image du jour aux États-Unis. Donald Trump à la barre d'un tribunal pénal dans un peu plus de 2 heures. C'est une première pour un ancien président. Il est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno, Stormy Daniels, il y a 8 ans lors de sa première campagne pour qu'elle ne révèle pas une relation vieille de 10 ans de plus. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Notre correspondant aux États-Unis en direct de New York. Le procès s'ouvre par la sélection des jurés et cela s'annonce pour le moins complexe.
Oui, ça s'annonce délicat parce que ça ne va pas être facile de trouver 12 personnes plus 6 suppléants aussi neutres que possible, avec une personnalité aussi clivante que Trump et dans une ville qui a voté à 85% pour Biden en 2020. Plus de 500 femmes et hommes ont donc été convoqués à partir d'aujourd'hui au tribunal, ici à Manhattan, sélectionnés au hasard à partir notamment des listes électorales pour une opération qui devrait prendre une semaine au bas mot. Ils devront d'abord répondre, ces jurés potentiels, à une liste de 42 questions, liste qui a fait l'objet de négociations serrées entre les deux parties et où 12 questions portent sur Trump lui-même, par exemple pour savoir s'ils ont déjà assisté à un rassemblement ou à un événement de campagne du candidat, s'ils le suivent sur les réseaux sociaux, pour savoir aussi où ils s'informent et s'ils ont déjà, par exemple, soutenu des groupes extrémistes comme la milice des Proud Boys ou les conspirationnistes de QAnon. Les jurés potentiels resteront anonymes, mais les deux camps auront leurs identités, bien sûr. Ils pourront chercher sur Internet et en récuser 10 chacun, sans donner de raison. Les avocats de Trump devraient plutôt garder des hommes moins éduqués et qui s'informent via les médias conservateurs. Les procureurs devraient davantage se tourner vers des diplômés de l'enseignement supérieur et des femmes. L'enjeu est de taille parce qu'il suffit d'un juré pour empêcher une condamnation.
Sébastien Paour, en direct pour le premier des 4 procès au pénal qui attendent Donald Trump, les autres sans doute après l'élection présidentielle de novembre. Riposte ou désescalade, Israël est en plein dilemme au lendemain de l'attaque de l'Iran. Plus de 300 drones et missiles tirés en direction de l'État hébreu dans la nuit de samedi à dimanche. Cela pose une délicate question au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Son allié américain refuse toute riposte, craignant un embrasement régional. Le cabinet de israélien se réunit une nouvelle fois ce midi. Et si certains membres du gouvernement souhaitent répondre à Téhéran, ce n'est pas forcément la position du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui sort finalement, et c'est le paradoxe, renforcé politiquement par cette attaque. Ajra Mohammad l'a constaté en tendant son micro à ce couple de Tel Aviv.
Je pense qu'il a bien pris les choses en main, même si nous, on ne le soutient pas du tout personnellement. On peut dire que le gouvernement a assuré.
Mais au final, on ne sait pas vraiment si c'est grâce à Bibi, à l'armée ou au chef d'état-major. Mais on s'en sort bien et c'est l'essentiel.
En tout cas, il faut répondre avec force.
Mais peut-être pas tout de suite, parce que ça pourrait aggraver la situation et qu'on doit se concentrer sur la libération des otages à Gaza. Mais après, oui, il faudra répondre.
Voilà le témoignage recueilli par Ajra Mohammad à Tel Aviv et à Jérusalem. Où vous vous trouvez ? Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Notre correspondant en direct. La presse israélienne a le même sentiment. Benjamin Netanyahou reprend des forces politiques avec cette attaque.
Oui, c'est le même écho que ce témoignage recueilli par Ajra Mohammad et Sandrine Malon. C'est clairement une éclaircie dans le bilan bien noir du Premier ministre depuis le 7 octobre. Pointé du doigt pour avoir autorisé le Qatar à financer le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne, Benjamin Netanyahou est aussi comptable des failles sécuritaires le jour du massacre. Il est accusé de continuer la guerre à Gaza pour sauver sa coalition, conserver le pouvoir, échapper à la justice et par conséquent abandonner les otages dans l'enclave. Sa popularité est au plus bas, mais donc pour la première fois, l'attaque de samedi soir lui donne raison. Depuis 1996 et son premier mandat, l'inamovible Premier ministre n'a cessé d'alerter sur la menace de Téhéran, s'opposant notamment au traité de 2015 sur le nucléaire civil iranien, et puis en montant une coalition avec des pays arabes sunnites dans le cadre des accords d'Abraham pour s'opposer à l'influence de Téhéran. Enfin, à son crédit, il y a aussi le dôme de fer qu'il a contribué à financer et à améliorer depuis l'installation de la première batterie de défense anti-aérienne il y a 13 ans. Seulement 9 missiles sur les 350 drones et aéronefs partis d'Iran et du Yémen samedi sont passés entre les mailles du filet.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem, attaque contrée par le dôme de fer israélien, mais aussi en partie par des forces françaises au-dessus de la Jordanie notamment. Emmanuel Macron a confirmé ces interceptions ce matin depuis une base française, Étienne Monin.
Et c'est depuis le désert jordanien que les Français sont intervenus. Les avions ont décollé d'une base construite de toutes pièces il y a plusieurs années pour intervenir en Syrie et en Irak contre Daesh. Cette base est à 2 heures d'Amman, dans un paysage de pierre et de sable ocre. Emmanuel Macron la connaît, il y était en décembre dernier pour le Noël aux armées. Il précise donc ce matin que les avions français sont intervenus à la demande de la Jordanie pour intercepter des drones et des missiles iraniens qui ont violé l'espace aérien jordanien. Nous avons intercepté ce que nous devions intercepter, a dit le président français. Il ajoute que l'opération iranienne est une rupture profonde. Nous allons tout faire pour éviter l'embrasement et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre, mais plutôt isoler l'Iran. Avec cette position, la France fait une pierre deux coups. Elle participe à la coalition défensive qui inclut notamment les États-Unis, mais elle se place à l'écart de la confrontation pour éviter d'éventuelles représailles et surtout continuer son rôle de médiation dans la région. La France travaille notamment à la désescalade dans la zone nord entre le Liban et Israël.
Étienne Monin, et les marchés financiers semblent parier sur cette désescalade. Les marchés du pétrole et du gaz ouvrent en léger repli ce matin, beaucoup moins tendu que vendredi. Un signe que les investisseurs croient à la détente, pour l'instant du moins. Olivier Gantois, le président de l'Union française des industries pétrolières.
Les marchés ne spéculent pas sur un embrasement du conflit du Proche-Orient à l'ensemble du Moyen-Orient. Les marchés pensent que à la fois l'Iran, l'Arabie Saoudite et les États-Unis vont tout faire pour qu'il n'y ait pas embrasement. Les acteurs des marchés pétroliers doivent estimer qu'aujourd'hui, oui, on est déjà à des niveaux élevés par rapport aux équilibres offre-demande. Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a une prime, on va dire, donc les marchés ont augmenté du fait de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'augmentation de la demande mondiale de pétrole brut a été prise en compte dans les prix. Les producteurs, notamment le peuple et la Russie, mois après mois, continuent à limiter leur production. On a des facteurs qui conduisent tous à ce que les prix restent durablement élevés. Aujourd'hui, $90 le baril. Et c'est comme si les marchés ne croyaient pas que les prix vont dépasser ces niveaux actuels.
Le président de l'Union française des industries pétrolières avec Delphine Simon. En France, sur les routes, ce fut un mois de mars meurtrier. 254 personnes ont été tuées. Un chiffre en hausse de plus de 30% par rapport au même mois l'an dernier, selon les estimations de la sécurité routière. Aujourd'hui, c'est un désastre de pollution. Ces petites paillettes de maquillage à base de plastique, eh bien, elles sont en voie de disparition, interdites à la vente par la Commission européenne. Ça a finalement incité les fabricants à se mettre au biodégradable, parce qu'il faut quand même en mettre un peu des paillettes dans nos vies. C'est un reportage d'Hugo Ossiou.
Dans cette grande enseigne de maquillage, les paillettes font partie des classiques. Manon en utilise souvent.
Pour les cosmétiques, enfin nous, en tant que filles, je trouve qu'on a besoin de paillettes.
Savoir que c'est bientôt la fin la peine un peu.
C'est relou, je trouve ça un peu triste. Enfin, mais après, si c'est pour l'écologie, bah alors tant mieux.
Et adopter les paillettes biodégradables ?
Bah, ça se discute. Ça dépend de la qualité aussi des paillettes. Si c'est bien pigmenté et tout.
Les nouveaux produits éco-responsables, déjà très présents en Angleterre et en Allemagne, arrivent en France. Carla Pasquier les commercialise depuis 2 ans sur Internet.
C'est des paillettes qui sont composées de plantes, de terreaux, et qui sont broyées. Les nôtres, particulièrement, elles sont biodégradables. Avant, en 2018, je pouvais clairement voir la différence entre une paillette en plastique et une paillette biodégradable. Mais aujourd'hui, je pourrais me tromper.
Lorraine Pernet a même ouvert un magasin en 2019. Elle confirme que les clients sont prêts à évoluer.
Ouais, ça marche super bien. À la base, nous, quand on s'est lancé, nos clients et clientes, c'était plutôt des personnes qui faisaient la fête. Et ça s'est vraiment plus démocratisé. C'est très demandé, notamment nos clientes, c'est beaucoup des personnes entre 25, 35, 40 ans qui sont très concernées par les enjeux écologiques.
Il existe quand même une grosse différence avec des paillettes classiques. Le prix comptait 6 fois plus cher pour un flacon de paillettes bio.
C'est pour préserver la nidification des oiseaux et la mise à bas des animaux que les chiens doivent être tenus en laisse à partir d'aujourd'hui en forêt et jusqu'au 30 juin. L'arrêté date de 1955, mais cette année, on l'a bien rappelé, l'amende encourue monte quand même à 750 euros. Et voici qui ne date pas d'hier non plus. Les cabines téléphoniques, ça fait longtemps qu'on n'en voit plus dans les rues, eh bien, elles pourraient faire leur retour à Strasbourg, version solidaire, version 21e siècle hein, quand même, une idée de la coopérative Command et un reportage d'Antoine Ballandra.
Dans ma main, une vieille photo de cabine téléphonique.
C'est une ancienne cabine téléphonique.
Dans les rues de Strasbourg, les passants ne voient que du positif au retour de ces téléphones de rue.
Il m'est arrivé l'autre jour d'oublier mon smartphone et je cherchais effectivement, ça m'aurait bien dépanné d'avoir une cabine téléphonique, je dois dire.
Si on peut appeler les secours, c'est très très pratique. En plus, si c'est gratuit, ça peut se justifier.
Car c'est bien le projet de la coopérative Command, une cabine du 21e siècle, version tablette, avec connexion 4G, et surtout appels et SMS gratuits, comme l'explique Adrien Montagu, cofondateur de la coopérative Command.
Un autre usage pourrait être celui de lutter contre la précarité, pour que des personnes puissent appeler gratuitement leurs proches.
Une cabine solidaire, donc, où les exclus d'Internet pourraient aussi effectuer leurs démarches, mais conçue aussi pour encourager les collégiens à déconnecter du smartphone.
On pourrait imaginer qu'elle puisse être installée, par exemple, devant les établissements scolaires, pour que les parents d'élèves puissent repousser le plus loin possible l'échéance d'équiper d'un smartphone les enfants.
La coopérative Command va maintenant dessiner ses cabines. Elle a déjà entamé des discussions avec la mairie de Strasbourg.
Reportage France Bleu Alsace, signé Antoine Ballandra. C'était il y a 5 ans, le brasier de la cathédrale Notre-Dame, la flèche qui s'effondre à Paris. Depuis l'incendie, la cathédrale est entourée d'une forêt de grues et d'échafaudages. Il a fallu mobiliser 100 d'entreprises, 1 000 d'artisans sur un chantier hors normes. Aujourd'hui, la flèche est reconstruite, la charpente est de retour, les pierres nettoyées. Tout cela commence à se voir et les touristes du monde entier s'arrêtent pour admirer le travail.
J'étais en France lorsqu'il y a eu l'incendie en 2019. C'était tout un choc, n'est-ce pas? Puis là, c'est mon premier retour. Alors, on voulait venir voir l'avancement des travaux, qu'on se fait beaucoup de chez nous, de toute façon.
On était devant la télé, on a regardé ça. C'est pour ça, si, ça nous touche.
Puis de se dire qu'effectivement, la flèche était tombée, que tout allait être abîmé. Je suis toujours venue ici quand j'étais gamine. Puis voilà, maintenant, 5 ans après, il fallait qu'on vienne, ouais. On pensait pas qu'en 5 ans, ce serait fait. Je pense que ça va pas tarder à être terminé.
Au mois de décembre, vous serez là pour l'ouverture.
Alors, peut-être pas au mois de décembre, parce qu'il va y avoir énormément de monde. Mais début janvier, je dis pas.
Le regard de touriste ce matin devant Notre-Dame au micro de Romaric Caillet. La réouverture, il faut donner la date, c'est le 8 décembre prochain. Bonsoir, rebonjour William Delesseux.
Bonjour.
On est dans la dernière ligne droite, donc, et qui est aussi décisive.
Oui, sur le calendrier, aucun retard, assure-t-on au sein de l'établissement public chargé de la reconstruction. Les délais sont tenus, tout sera dans les temps. C'est d'abord sur le toit de Notre-Dame que se concentrent en ce moment les efforts. Il faut continuer de poser les éléments de couverture des tonnes de plaques en plomb sur la toute nouvelle charpente, comme celle du XIIIe siècle. Cette toiture sera visible en partie cet été, pendant les Jeux Olympiques. À l'intérieur, la pierre est claire, vous l'avez dit, le nettoyage est terminé. Place aux travaux de finition. Maintenant, il faut réinstaller entièrement l'électricité et les réseaux au sein de la cathédrale. Un tout nouveau système de sécurité incendie pour éviter un autre drame va prendre place. Objectif, détecter la moindre flamme, l'éteindre avec un système de brumisation et des dispositifs coupe-feu. Pour accueillir le public, de nouveaux accès extérieurs seront ouverts cet automne et réaménagés. Quant au budget global, c'est toujours 552 millions d'euros. Il est conforme à ce qui avait été prévu.
Éclairage signé William Delesseux, Notre-Dame de Paris, un sacré chantier. Ce sera aussi le sujet du Téléphone Sonne ce soir, animé par Christelle Rebière. Et si vous êtes à Paris en ce moment, c'est les vacances scolaires, eh bien, vous avez peut-être prévu d'aller au théâtre. On a des bonnes idées à vous donner avec Stéphane Capron. Bonjour Stéphane.
Bonjour Alain.
Notre spécialiste de la question à France Inter. On rappelle que les Molières, c'est dans un mois,
oui,
maintenant.
Début mai.
Donc on peut vous donner quelques idées de spectacle à ne surtout pas manquer. On va débuter par un seul en scène, Un prince. C'est avec Samy Bouajila au Théâtre des Champs-Élysées.
Oui, ça aurait pu être un récit autobiographique puisque lui, il était fils d'immigrés. Mais cette pièce, c'est le fruit de l'imagination de la romancière Émilie
pays fraîche. Alors il incarne à la fois un fils né en France et un père qui a fui l'Afrique du Nord pour trouver du travail. On alterne entre les rêves du père, les échecs du fils. Samy Bouadjila passe de l'un à l'autre avec beaucoup de délicatesse dans une mise en scène très beckettienne de Marie-Christine Horry. C'est un spectacle tendre, mais malheureusement, le comédien ne fait pas partie des nominations pour les Molières.
Un prince avec Samy Bouadjila au théâtre des Champs-Élysées. On poursuit avec un classique américain, tout le monde connaît, Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Et cette fois, une comédienne nommée aux Molières, Christina Reali, au Bouffe Parisien.
Oui, elle incarne Blanche Dubois, immortalisée au cinéma par Vivienne Leigh dans le film d'Elia Kazan, un rôle sur mesure pour la comédienne totalement bouleversante, hantée par ses démons face à elle. Les rôles masculins sont malheureusement un peu plus lisses. Nicolas Avinet manque notamment de mordant dans le rôle de Stanley Kowalski. Mais mention spéciale pour l'interprétation d'Alison Paradis dans le rôle de la sœur de Blanche Dubois. Elle est aussi nommée aux Molières et la mise en scène de Pauline Susini est efficace. Elle parvient bien à restituer l'atmosphère de la Nouvelle-Orléans.
Un petit dernier, Le Cercle des Poètes disparus. C'est l'adaptation du film hein, avec Stéphane Fraisse dans le rôle créé au cinéma par Robin Williams. Et c'est la pièce du théâtre privé la plus nommée aux Molières.
Ouais, 6 nominations, dont celle de Stéphane Fraisse. Un spectacle qui est au cœur de l'actualité autour de l'éducation, des relations entre les élèves et les professeurs, avec ce rôle magnifique de John Keating qui enseigne à ses lycéens comment devenir des esprits libres à travers la philosophie, la littérature, le tout dans une mise en scène tout en fluidité d'Olivier Soliveres. C'est vraiment la belle surprise de ce début d'année au théâtre privé. Et le public ne s'y trompe pas, c'est standing ovation tous les soirs.
Ah ouais, Le Cercle des Poètes disparus. En ce moment, Théâtre Antoine à Paris. Merci beaucoup Stéphane Capron. On peut ajouter que tous ces spectacles partiront en tournée.
Ils partiront en tournée, vous les verrez près de chez vous.
L'année prochaine. Merci à vous. 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Attention au vent dans le nord de la France de Sébastien Léas. Que dis-je ? En plus, il est dans ce studio, il vient d'arriver. Et moi, je parle d'Élodie. Bonjour Sébastien.
Bonjour
Élodie. Vous restez là parce que j'ai besoin de vous dans quelques secondes.
On embrasse Élodie.
À 13h30, d'où vient le consentement à la vaccination majoritairement partagée par les Français ? L'historien Gaëtan Thomas est l'auteur d'un ouvrage passionnant sur la question. Il est notre invité alors qu'une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid commence aujourd'hui pour les plus fragiles. Quelle est l'histoire de la vaccination en France ? Quelle a été la stratégie vaccinale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment comprendre les réticences, la méfiance de certains ? Posez-lui toutes vos questions au 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton. On monte sur le Grand 8 du parc de Nigloland, un parc d'attractions familiales dans le Grand Est qui n'a rien à envier au grand. 700 000 visiteurs chaque année en moyenne. 13h50, c'est la France. Bonjour Thomas Snegaroff.
Bonjour Hélène, c'est ça?
Vous nous emmenez, si je ne me trompe pas, à Giverny aujourd'hui.
Absolument. Aujourd'hui, on fête le 150e anniversaire de l'impressionnisme. Direction l'Eure. Mais pourquoi Claude Monet a-t-il choisi Giverny?
Et puis Frédéric Pommier nous a remixé le meilleur de C'est une chanson toute cette semaine, l'actrice Josiane Balasco demande aujourd'hui « Mon manège à moi » d'Edith Piaf, la môme qu'elle avait rencontrée quand elle était enfant.
On a vu arriver une toute petite bonne femme qui était Edith Piaf, mais c'est vrai qu'elle n'était pas maquillée et tout. Et je me souviens qu'elle m'a fait un grand sourire et qu'elle m'a tapoté la tête. Et donc voilà, j'ai rencontré Edith Piaf.
Tu me fais tourner la tête.
Mon manège à moi, ce sera juste avant 14h. À tout de suite.
Pourquoi MAF Pro ?
Parce que du 2 avril au 4 mai, il y a 200 euros offerts sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au 21e siècle ? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
La météo à suivre.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Et c'est avec vous, Sébastien Léas. Évidemment, une perturbation arrive par les côtes de la Manche.
Oui, après ce week-end aux saveurs estivales, place à un temps plus agité sur les régions de la moitié nord. Une perturbation pluvieuse s'étend déjà entre la Bretagne et les Hauts-de-France et elle va s'enfoncer un peu plus cet après-midi pour atteindre les Pays de la Loire, le bassin parisien, les Ardennes et la Lorraine. Les nuages débordant eux de plus en plus vers le Poitou-Charentes, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne. Au passage du front, le vent va se renforcer avec de violentes rafales cet après-midi au nord de la Seine, en particulier sur la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Trois départements placés en vigilance orange pour vent fort. Près des côtes de la Manche, le temps va devenir plus capricieux avec toujours beaucoup de vent, mais des nuages plus morcelés et des passages d'averses. Et puis l'après-midi sera quand même plus calme et plus ensoleillé sur les régions du sud et le long des frontières de l'est. Le soleil sera même quasiment tout bleu autour de la Méditerranée. En revanche, sur le Jura, les Alpes du Nord et entre les Pyrénées et l'ouest du Massif central, les éclaircies seront un peu plus timides et quelques averses seront même possibles en montagne. Et puis la fraîcheur commence déjà à s'installer et va d'ailleurs s'accentuer dans les prochains jours, les températures repassant partout sous les valeurs de saison. Pour cet après-midi, prévoyez 12 degrés à Rouen et Lille, 13 degrés à Brest, 14 degrés à Metz, Nantes et Bourges, 15 degrés pour Paris et La Rochelle, 18 degrés à Toulouse et Strasbourg, mais encore 23 degrés à Bastia et à Lyon, 25 degrés à Nice et Marseille et 26 degrés pour Nîmes.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.
France Inter, le 13-14, Hélène Philly.
Où sont les antivax, ceux qui ont fait irruption dans le débat public il y a 3 ans au début de la vaccination contre le Covid, nettement moins médiatisés aujourd'hui, alors que s'ouvre une nouvelle campagne à destination des plus fragiles, mais toujours présents autour d'une défiance qui s'exprime de plus en plus. Notre invité s'interroge sur ce curieux paradoxe. Alors que la méfiance fait la une, l'histoire de la vaccination est d'abord l'histoire d'un consentement. C'est le titre de votre livre. Bonjour Gaëtan Thomas.
Oui, bonjour.
Vous êtes historien de la médecine et des sciences. Votre essai publié aux éditions du Seuil il y a quelques jours. Vous vous intéressez à la vaccination du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. N'hésitez pas à nous appeler, chers auditeurs, si vous voulez intervenir. 01 45 24 7000. Gaëtan Thomas, vous parlez de l'histoire d'un consentement. Ni défiance généralisée, ni adhésion totale, donc.
En fait, il y a un paradoxe très très intéressant quand on s'intéresse à l'histoire de la vaccination, et y compris la vaccination aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à mettre l'accent sur la résistance, la défiance, alors que les taux restent très élevés. La campagne de vaccination contre le Covid a très bien fonctionné, et je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que seulement 1% aujourd'hui des enfants en France échappent à toutes les vaccinations. Donc il y a un biais qu'il faut interroger. Pourquoi est-ce qu'on met tant l'accent sur les résistances alors que c'est une intervention qui fonctionne très bien? Et c'est ce que j'interroge dans le livre. Il y a plusieurs éléments de réponse à cette première question. La première, c'est qu'évidemment, c'est plus intéressant de s'intéresser, de regarder la résistance. Ça permet de raconter des histoires. L'exagération, c'est quand même un très bon ressort narratif. Sauf que les médecins aussi se racontent des histoires sur l'ampleur de cette résistance.
Vous avez l'impression que l'importance du mouvement anti-vax pendant le Covid a été exagérée, par exemple ?
Bah, très clairement, elle a été exagérée, puisqu'on a vu que la vaccination a très très bien fonctionné. Hein, avec en 2022, je crois que 83% des individus concernés avaient reçu toutes les injections nécessaires. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette exagération, en particulier de la part des milieux médicaux? Évidemment, il y a une crainte de plus en plus grande des scandales sanitaires qui se sont multipliés depuis les années 80. Il y a aussi un regard statistique qui est de plus en plus précis. On connaît de mieux en mieux les niveaux de couverture vaccinale en France.
La couverture vaccinale, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire.
Exactement. Jusqu'aux années 90, on avait une vision de l'état de la vaccination en France qui était très floue. Et venait avec ce flou une forme d'optimisme. On savait que de toute façon, ça allait s'améliorer. À partir du moment où on a des statistiques plus précises, et aussi des taux idéaux plus précis, il y a une sensibilité plus grande aux écarts entre l'idéal et la réalité. Et il y a tout un discours sur l'hésitation vaccinale du coup qui s'est introduit dans cet écart.
Vous rappelez bien que les Français se font vacciner à une écrasante majorité. Est-ce que ça a toujours été comme ça dans l'histoire ?
Disons que oui, il y a toujours eu ça dépend des vaccins en fait. Mais si vous voulez, à partir du moment où un vaccin rentre dans les usages en santé publique, les médecins ont mis au point avec l'aide des industriels et de l'État des stratégies pour faire en sorte d'atteindre des très hauts niveaux de couverture vaccinale. Et une de ces stratégies employées, ça a été de rassembler l'essentiel des injections dans les premiers mois de la vie.
Alors ça, c'est une partie très intéressante de votre ouvrage, celle d'ailleurs où on parle de Robert Debré, qui plus que Pasteur a été un artisan qui a œuvré pour la vaccination de masse en France. Et vous évoquez justement ce calendrier vaccinal qui a une importance toute particulière. On vaccine dès les premiers mois, dès les premières années de l'enfance. Et ça a eu une importance capitale pour la couverture vaccinale.
Oui, si vous voulez, la vaccination, c'est pas la seule méthode préventive qui est disponible, mais c'est celle qui est la plus simple. Et il faut trouver un moyen de maintenir cette simplicité. Et un des moyens qui a été trouvé, ça a été d'une part de créer des vaccins combinés et d'autre part de rassembler la plupart des injections dans les premiers mois de la vie, à un moment où l'autorité médicale atteignait son apogée. Et du coup, ça a été une très très bonne façon de normaliser la vaccination, de faire en sorte que ça s'intègre au cours normal d'une vie, en fait, si vous voulez.
Est-ce que ça a instillé le doute aussi en limitant la question du choix, du consentement ?
Pas vraiment, parce que comme les parents font son demande de conseil auprès de leur médecin, etc., avec une assez grande confiance qui se met en place à ce moment-là de la vie. Et on voit à quel point tous les sondages sur l'hésitation vaccinale sont contradictoires, parce qu'on interroge la population entière sur ce qu'elle pense de la vaccination. Or, les personnes qu'il faudrait interroger, c'est les parents, qui sont évidemment les personnes qui permettent à la médecine d'accéder aux corps qui sont vaccinés. Donc, il y a une forme de contradiction très, très forte. On a tendance à penser que tout passe par la confiance, la question des intentions des individus. Or, il y a tout un travail sur la matérialité même de la vaccination, sa simplicité, la façon dont on l'a intégrée dans la vie quotidienne des individus, qui a permis de contourner un consentement actif et éclairé à la vaccination.
Vous parlez de contournement. Mm-hmm. Pour quelle raison ?
Parce qu'on a trouvé des réponses matérielles à ces problèmes de confiance.
C'est là que je dis que le doute a pu s'immiscer par cette porte-là.
Moi, je pense que le doute, il est lié aussi aux transformations de la santé publique. On n'en parle pas beaucoup, mais depuis les années 80, la santé publique a été de plus en plus onéreuse. Le premier vaccin cher de l'histoire, c'est le vaccin contre l'hépatite B. Et c'est pas du tout un hasard, si c'est aussi le premier vaccin très controversé en France. C'est un vaccin dans lequel il y a beaucoup de propriétés intellectuelles et qui a fait rentrer la santé publique dans une nouvelle ère, ouvrant la porte à des suspicions de profit et un nouveau registre de la critique anti-vaccinale.
Le scandale de l'hépatite B n'est pas uniquement lié au prix du vaccin à l'époque.
Non, évidemment, c'était d'abord un scandale, une controverse qui s'est ouverte du fait de suspicions d'effets indésirables graves, et notamment de sclérose en plaques. C'est une controverse qui a été assez mal gérée par les experts et par l'État, puisque l'État s'est beaucoup contredit. D'un côté, on a nié une relation de causalité entre le vaccin et des effets indésirables graves, et de l'autre, on a indemnisé des victimes présumées dès la fin des années 90. L'État a indemnisé des victimes présumées de la vaccination contre l'hépatite B. Donc le discours de l'État et des experts était très contradictoire. Et il y a beaucoup de contradictions d'ailleurs dans l'histoire de la vaccination qui ne rassurent pas. Et le doute n'est pas simplement lié à une forme d'irrationalité des individus, c'est aussi une réponse à la santé publique qui parfois se contredit.
Le doute et les contradictions n'épargnent pas les patients. On a ce témoignage de Jeff sur l'appli Radio France. Il nous raconte qu'il est ancien militaire, qu'il a servi à l'étranger comme béret bleu de l'ONU. Il a reçu tous les vaccins inimaginables et l'un d'eux a déclenché la maladie de Guillain-Barré chez lui. Ça lui a valu 2 semaines en réanimation et malgré cette expérience malheureuse, il continue de se faire vacciner assidûment et il a presque 65 ans. La grippe, le Covid, il continue à se faire vacciner. Il nous offre ce témoignage de ce paradoxe-là.
Oui, on peut pas nier le fait qu'il y ait des effets indésirables très rares pour les plus graves, mais qui existent et qui n'empêchent pas la vaccination de continuer à bien fonctionner. Il y a une part de risque irréductible et de plus en plus rare parce que les vaccins sont de plus en plus performants.
Performants, et on a des outils statistiques qui le montrent. Et le vaccin contre le Covid a permis de sauver des vies. Les chiffres sont là pour le prouver.
Oui, absolument. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'efficacité du vaccin, mais simplement de souligner le fait que le discours sur l'hésitation vaccinale l'a emporté dans la compréhension du sujet, alors qu'une des grandes questions de la vaccination que je traite dans le livre, c'est celle de l'acceptation. Comment cette mesure est parvenue à se normaliser à une si grande échelle alors qu'elle est sans cesse associée à la notion de controverse.
Frédéric est en ligne avec nous dans ce 13-14. Dans quelques instants, il sera en ligne avec nous depuis Pau. Je vous donne un autre message alors de Corinne qui nous dit sur l'appli Radio France qu'en France, tous les bébés sont vaccinés simplement parce qu'il y a obligation. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le calendrier vaccinal. C'est l'obligation qui fait la vaccination, ce n'est pas la conviction.
Il y a un changement de doctrine en France. Hein. Pendant très très longtemps, la première obligation a été mise en place très tardivement, en 1902, par rapport à d'autres pays occidentaux. Et puis il y a une multiplication des obligations au milieu du siècle. Et puis dans les années 60, on a considéré que le droit ne pouvait pas tout. Et qu'il y avait des taux très élevés. Il y avait des vaccins qui avaient des taux très bas, au contraire, pardon, comme le BCG de vaccination, alors qu'ils étaient obligatoires. Et donc là, on s'est rendu compte qu'il fallait trouver d'autres moyens, et c'est notamment ces questions de vaccins combinés, de calendrier vaccinal, d'épingler la plupart des injections dans les premiers mois de la vie, qui ont permis de résoudre ces problèmes de droit qui étaient faiblement effectifs. Si le droit ne fonctionnait pas, c'est parce que l'État ne donnait pas les moyens de le faire appliquer, mais c'est aussi parce qu'en matière de vaccination et de santé publique, l'obligation vaccinale rentrait en contradiction avec l'obligation scolaire, qui est un des grands principes de la République. C'est-à-dire qu'on n'allait pas, l'État a laissé une part de mou pour que les individus ne soient pas complètement plus exclus du système scolaire quand ils refusaient de se faire vacciner leurs enfants.
11 vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. La France est quand même l'un des pays les plus coercitifs en la matière par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède, par exemple. Pour quelles raisons ?
On est revenu à l'obligation dans les années 2010 parce qu'il y avait beaucoup de craintes dans les milieux médicaux sur la montée justement de cette hésitation vaccinale. Mais cette hésitation vaccinale, elle se traduisait pas dans les faits par des mauvais taux de vaccination. Mais bon, il y a eu un changement de doctrine légale qui a bien fonctionné puisque en fait les taux sont aujourd'hui très très élevés de vaccination.
Qu'est-ce que recouvre l'hésitation vaccinale ?
L'hésitation vaccinale, c'est une notion qui a été popularisée par l'Organisation mondiale de la santé et qui consiste à qui tente d'éviter en fait la
Il y a de tout. Il y a celui qui a peur de la piqûre et qui va pas se faire vacciner, celui qui a peur des effets secondaires, celui qui n'a pas confiance dans le vaccin et encore moins en celui qui demande à se faire vacciner.
C'est un attrape-tout qui permet en fait de mettre ensemble, de rassembler un grand nombre de positions sur la vaccination. Et moi, je vois derrière le succès de cette notion une forme d'impatience de la santé publique et des autorités sanitaires. Je pense qu'il est sain dans une société d'hésiter, j'ai le sens d'avoir du doute. Si les individus n'ont pas envie de déclarer leur allégeance immédiatement à un vaccin, pourquoi pas ? Puisqu'au bout d'un moment, de toute façon, ils vont se faire vacciner. Puisque c'est l'intervention la plus simple, souvent la plus efficace et souvent la plus inoffensive pour lutter contre les maladies infectieuses. Il faut laisser de l'espace un petit peu pour l'expression d'un doute dans une démocratie, je pense que cela est sain.
Si l'on revient à l'exemple du Covid, ça a été typiquement ça. Il y avait peut-être besoin d'un temps d'adoption. Il faut rappeler que l'élaboration des vaccins a été extrêmement rapide par rapport à ce qu'on avait connu jusqu'à présent.
Oui, et puis vous savez, pendant le Covid, on a eu les premiers sondages sur l'hésitation vaccinale qui ont été faits avant même la mise à disposition d'un vaccin. On a demandé aux individus de se positionner avant même l'existence d'un vaccin. On marchait un peu sur la tête quand même, je crois. Et puis après, la campagne a bien fonctionné. Les individus se sont rangés aux recommandations des autorités sanitaires qui semblaient raisonnables.
Cette fois, nous allons donner la parole à un auditeur en ligne avec nous. Éric, bonjour. Vous nous appelez du Var.
Oui, bonjour. Oui, moi je voulais intervenir parce que je me suis pas fait vacciner contre le Covid, j'ai 64 ans, j'ai été vacciné toute ma vie, j'ai vacciné mes enfants, mais là, cette obligation vaccinale sur un vaccin qui venait de sortir avec toutes les interrogations qui étaient dans les réseaux sociaux mais qui n'étaient pas sur les médias, et puis quand j'entends parler votre interlocuteur en disant que ça n'a rien à voir avec les profits des grandes entreprises des laboratoires et compagnie, je m'excuse, mais il y en a quand même qui ont gagné des milliards et des milliards parce qu'il y a eu une obligation vaccinale. Et moi, il n'y a pas de raison qu'à 64 ans, on m'impose de faire rentrer dans mon corps un produit dont je me méfie ou je n'ai pas d'informations suffisantes pour me faire une idée.
Voilà, le temps de l'adoption, c'est ce qu'on retrouve dans le témoignage de notre auditeur, Gaëtan Thomas.
Je pense que c'est pas surprenant. Vous faites partie, monsieur, des 10% de Français qui ont refusé de se faire vacciner contre le Covid. Ce qui est assez peu quand même en santé publique, 10%. Et oui, vous parliez d'une suspicion de profit. Je pense que ce sont des interrogations qui sont légitimes. J'ai pas dit qu'il y avait pas de légitimité dans ce genre d'interrogation, puisqu'effectivement, il y a une transformation de la vaccination, de la santé publique depuis les années 80. C'est devenu un produit onéreux. Et ça, c'est vraiment neuf dans l'histoire de la vaccination. Les vaccins étaient des produits peu onéreux, peu chers. Avant les années 80.
Ceux qui ont hésité à se faire vacciner ne sont pas tous complotistes ou ne sont pas tous résistants par principe à la vaccination.
Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les individus ne se vaccinent pas. Et c'est pas forcément lié à la question de l'innocuité de la vaccination. Ça peut être parce qu'ils considèrent que ils ont des pratiques qui sont de vie qui sont saines et qui vont les protéger d'un virus, peut-être à tort ou peut-être à raison, je sais pas. Mais et en tout cas, la question de l'innocuité est pas forcément centrale. Effectivement, on évite la vaccination pour des tas de raisons. Mais il y a au bout du compte, il y a très peu de gens qui évitent complètement la vaccination.
Et Claudine nous demande tout de même comment expliquer que des professionnels de santé se soient opposés à la vaccination. Contre le Covid.
Ça, c'est un grand classique dans l'histoire de la vaccination. Pour l'hépatite B, c'était la même chose. Les premières recommandations sur l'hépatite B visaient justement les professionnels de santé qui sont peu fait vacciner. Il y a une suspicion assez grande dans les milieux médicaux vis-à-vis de la vaccination.
Pour quelle raison ?
Je ne sais pas, il faut demander aux médecins. Mais il y a peut-être... On considère peut-être parfois, quand on est médecin, qu'on échappe à la maladie ou qu'on est personnel soignant. Je ne sais pas. Mais il y a une... Oui, les taux de vaccination ne sont pas les plus élevés parmi les personnels soignants, c'est clair.
Et par exemple, pourquoi la campagne contre le papillomavirus, si on parle d'une autre campagne de vaccination, ne marche-t-elle pas en ce moment en France ?
Alors déjà, c'est une vaccination qui a été introduite relativement récemment, en 2007. Et on peut... faire une comparaison avec la vaccination contre l'hépatite B, puisque de la même façon que l'hépatite B, en fait, c'est une vaccination qui, à l'origine, était ciblée, qui concernait les jeunes femmes. Puis, on a aussi ciblé les homosexuels. Et là, aujourd'hui, on étend les recommandations. Donc, ça prend du temps pour que la chose se normalise. Et on est passé d'une vaccination ciblée à une vaccination peu à peu universelle. Et le temps que la vaccination entre en usage, il faut quelques années, c'est tout à fait normal.
Quelle leçon nous donne l'histoire sur le consentement à la vaccination ?
L'histoire, elle montre que... quand on s'intéresse trop aux représentations des individus, on passe à côté d'enjeux de pouvoir qui passent par la matérialité des choses. Le monde y tient aussi parce qu'on travaille sur les choses en tant que telles et qu'elles s'imposent aux individus et que tout ne passe pas par la représentation, par les déluges d'informations, de fake news. Il n'y a pas d'apocalypse cognitive, il y a un monde qui tient du fait de sa matérialité.
Il y a besoin de clarté, de transparence. Le politique a sa responsabilité dans la confiance accordée au vaccin.
Oui, il y a beaucoup de clarté, il y a aussi besoin d'un maintien de la simplicité. Parce que la vaccination, on l'a emportée au cours de l'histoire parce que c'était l'intervention la plus simple de santé publique. Et quand elle devient trop complexe, quand il y a trop de rappels, ça fonctionne moins. Donc un des enjeux, c'est de maintenir cette simplicité.
Voilà, ce sera la semaine européenne de la vaccination la semaine prochaine. Gaëtan Thomas, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle la publication de votre livre « Vaccination, histoire d'un consentement » paru aux éditions du Seuil il y a quelques jours. À 13h46, c'est l'heure de notre feuilleton « Une semaine dans leur vie » qui nous emmène au parc d'attractions cette semaine. Ça tombe bien, c'est les vacances. Pas le plus connu des parcs d'attractions, hein, mais un historique de l'aube, Nigloland, fondé en 1987 par les Gélis, une famille de forains et de circassiens. Il est niché en plein cœur de la forêt. Il a rouvert il y a quelques jours pour une nouvelle saison. Ajra Mohammad y était et elle a suivi les derniers réglages de l'une des attractions phares du parc.
Clément ?
Ouais ?
T'en es où là ?
C'est
vite. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on est sur transbordeur et on va transborder un bateau, donc le numéro 4, on va le mettre sur le transbordeur et avec le transbordeur on va l'apporter sur le rail pour le mettre sur le parcours. Hop, allez accrochez-vous, c'est parti. Donc moi c'est Paul, j'ai 30 ans et je suis opérateur attraction depuis juin 2021.
Et cette attraction qui s'appelle Krampus, elle consiste en quoi ?
Donc en fait c'est un grand 8 comme un grand 8 traditionnel et ça finit en aquatique avec un splash, un peu comme une rivière canadienne où on a un splash à la fin en bateau et on prend un peu d'eau.
C'est une des attractions les plus demandées peut-être ?
Ouais, c'est une attraction qui a quand même pas mal de demandes. On a quand même pas mal d'attentes, surtout l'été quand il fait chaud, les gens veulent se rafraîchir. C'est une attraction phare de Nigloland.
Et donc les vérifications, là, vous avez démarré quand ?
Donc les vérifications, là, je dois être prêt pour 10 heures pour démarrer quand même 30 minutes avant l'arrivée des clients, pour voir si tout fonctionne bien. Donc j'ai démarré à 8h45 les contrôles, on a à peu près 1h15. Et là, on est sur la fin, on a juste à ajouter les bateaux, vérifier les barres, envoyer les rafts à vide, et noter les temps sur le parcours des rafts. Alors moi, je suis arrivé en juin 2021, pile à l'ouverture du Krampus. Et du coup, depuis, j'ai toujours pas quitté l'attraction.
Vous faisiez quoi avant ?
J'ai fait un BTS comptabilité, Ensuite, je suis parti en marketing en ligne, en tout ce qui est vente sur Internet. Ensuite, j'ai été au service client d'Engie. Et ensuite, j'en ai eu un peu marre. Je voulais changer d'air et j'ai postulé à Nigloland. Nigloland, c'était pour avoir un milieu festif, dynamique et dans la joie. Voilà, donc on va faire le premier test à vide des deux bateaux qu'on vient d'ajouter du garage. Avant d'envoyer un bateau, on vérifie bien que les caméras sont actives. Voilà, on peut voir que la zone est dégagée sur les caméras, donc on peut envoyer un raft en toute sécurité. Hop, c'est parti.
Et vous, vous êtes de la région ou pas ?
Ah non, moi je suis de Haute-Marne, j'habite près de Chaumont.
Pas très loin ?
Oui, à 45 minutes.
Et vous imaginiez plus jeune diriger ce genre d'attraction
Ah non, pas du tout. Pourtant, je venais quand même pas mal de fois quand j'étais petit dans le parc avec mes parents. Mais je me suis jamais projeté en me disant que j'allais travailler ici. Donc voilà, c'est quand même cool de travailler ici, quoi.
Et à quelques minutes de la réouverture, de l'arrivée des premiers visiteurs, vous sentez comment, vous, c'est...
Je suis excité d'attendre les nouveaux visiteurs, quoi, d'une saison qui reprend, qui va être passionnante, et on espère divertir les gens au maximum, qu'ils s'amusent bien et que tout le monde sera content. Là, on fait le tour à vide du bateau qu'on vient d'envoyer. On peut vérifier sur les caméras son parcours, si tout se passe bien. On peut avoir le temps sur notre pupitre. On voit tant de chutes du dernier bateau. Donc il a fait son petit parcours en 28 secondes 24. Donc c'est impeccable. Ça y est, il est à l'eau. Il est prêt à partir et on est prêt à accueillir les visiteurs pour une bonne journée et une bonne saison.
Une semaine dans leur vie à Nigloland avec Ajram Mohamad, réalisé par Stéphane Ronxin. Tous les épisodes à retrouver sur le site de France Inter. Demain, on va donc suivre les premiers visiteurs, 700 000 en moyenne chaque année. Et parmi eux, Sylvie, c'est une fidèle, vous l'entendrez.
France Inter, le 13-14.
On revient plus à l'ouest avec vous, Thomas Negarov. C'est la France, 13h50 le lundi. Vous nous racontez l'histoire d'un lieu dans l'actualité. Et aujourd'hui, alors que le mouvement impressionniste fête ses 150 ans, c'était le 15 avril 1874 au 35 boulevard des Capucines, couvrait la première exposition impressionniste. On est donc jour pour jour. Mmh. Et ben, vous nous emmenez à Giverny, qui fut le refuge de l'un des plus célèbres d'entre eux.
Oui, direction Giverny, qui en ce 15 avril 1874... n'est encore qu'un minuscule village de l'Eure en Normandie, peuplé d'à peine de 200 habitants, mais un village aujourd'hui mondialement connu depuis qu'en 1883 s'y installe en effet Claude Monet. Claude Monet, qui présente d'ailleurs 9 toiles dans l'exposition d'avril 1874, dont Impression Soleil Levant, considérée par beaucoup comme l'œuvre fondatrice de l'impressionnisme. Un paysage du Havre, révélant l'attachement du peintre à la Normandie littorale. Mais 9 ans plus tard, c'est sur les bords de Seine que Claude Monet s'installe, avec sa famille, à Giverny donc. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi, comment il découvre ce village, mais on sait qu'il connaissait bien Vernon, à quelques kilomètres de là, et on suppose une promenade à pied. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il cherchait une grande maison, avec un jardin, pas trop loin de Paris, et avec une école, comme beaucoup de gens peut-être aujourd'hui encore. Lui, c'était pour vivre avec Alice, sa nouvelle compagne, qui a 6 enfants, ainsi que ses 2 fils. À lui, ce sera donc cette vieille ferme abandonnée sur le lieu dit du pressoir, où du cidre était autrefois produit.
C'est là que Monet va vivre pendant 40 ans et peindre sans cesse ses jardins.
Et notamment le jardin d'eau, où il plante des nymphéas. Alors pas pour les peindre d'ailleurs, mais il en sera saisi plus tard, un jardin d'eau créé grâce au détournement du cours d'un bras de la rivière Lepte, aux grandes dames d'ailleurs des locaux qui accusent les nymphéas d'empoisonner l'eau que boivent leurs vaches. On n'aime pas tellement ce Parisien qui ne parle à personne, qui passe sa vie à peindre. En 1952, à la télévision, Sacha Guitry se souvient de son ami.
Il habitait Giverny, se levait avec le soleil et se couchait en même temps que lui. Et lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il dînait et montait se coucher. Car il le disait lui-même, quand le soleil est couché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Monet n'avait qu'un seul luxe, ses fleurs. Son jardin était un des plus beaux jardins du monde. Il en décidait la couleur quelques mois à l'avance. Il disait, je veux qu'au mois de juin, tout mon jardin soit mauve ou rouge. Il passait pour un ours, et je sais que des artistes sont venus de tous les pays du monde pour le voir et qu'ils ne l'ont pas vu.
Giverny, ce petit village, devient alors un haut lieu de la création, notamment américaine.
Oui, Monet attire comme un aimant toute une colonie d'artistes américains fascinés par le travail du maître français. Les locaux qui n'aiment pas Monet, je le rappelle, vont tout de même en tirer un sacré profit. Mmh. À l'image de la famille Body qui tient l'épicerie café du village et qui loue au prix fort, très fort, des chambres à ces curieux américains qui n'ont que Monet à la bouche. Les Body ont la bosse du commerce, ils aménagent des ateliers pour les peintres et font même construire un court de tennis. Certains artistes achètent des maisons à l'image du peintre californien Guy Rose ou encore Theodore Butler qui va lui-même jusqu'à se marier avec une des belles-filles de Claude Monet. Claude Monet aura placé par son génie Giverny sur la carte du monde de l'art. Et en 1910, à New York, plusieurs artistes américains exposent sous le nom de Groupe de Giverny. Imaginez Giverny, ce petit village à New York.
Eh bien, vous m'offrez une belle transition. Merci Thomas Negaroff, parce que New York, c'est une ville qui a compté pour Édith Piaf. C'est l'artiste choisi aujourd'hui par Josiane Balasko dans C'est une chanson. La comédienne et réalisatrice est avec Frédéric Pommier pour évoquer l'une des rares chansons joyeuses du répertoire de la môme, Mon manège à moi.
Édith Piaf, c'était mon enfance, parce que mes parents avaient un petit bistrot et dans le jukebox, il y avait notamment « Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi, je suis toujours à la fête quand tu me prends dans tes bras ». Il y a les images du café, puis aussi les images de fêtes foraines. De mon manège à moi, moi je les vois sur un roller coaster en train de dévaler des montagnes russes. Tout est positif là-dedans. Alors je dis, pour une chanson de Piaf, elle met vraiment de bonne humeur.
C'est une chanson d'amour.
C'est une chanson d'amour heureux.
C'est en ça qu'elle est rare.
C'est en ça qu'elle est rare, surtout dans le répertoire de Piaf.
Elle avait quelque chose de la comédienne, quand elle interprétait.
Mais c'était une grande chanteuse réaliste qui interprétait, qui vivait ses chansons, qui étaient souvent des drames terribles, hein, de filles malheureuses, de filles abandonnées. Mais c'était toujours des chansons magnifiques.
Est-ce que cette chanson-là, elle vous trotte dans la tête de temps en temps ?
Oui, parce que justement, elle a ce côté entraînant, ce côté dansant. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Vous voyez, on a envie de danser, on entend l'accordéon derrière.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble deux. Quelle vie on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux. On pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les plans de la fête et la terre n'y est pour rien.
Est-ce qu'il y a un passage que vous pouvez lire ?
Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui se prend la terre ? Ma parole, y a qu'elle sur terre. Y a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous, y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Vous voyez ? Tout est positif.
Pour nous, y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous, on s'aimerait quand même. Tu me fais tourner.
Quand j'étais toute petite, quand j'avais 8-9 ans, j'ai eu la chance de la rencontrer, Piaf, parce que mes parents connaissaient des gens qui étaient gardiens d'une sorte de propriété qui louait des bungalows pour artistes quand ils allaient se reposer. Et on est allé dire bonjour à ces gens que mes parents connaissaient. Et ils nous ont dit, il y a Édith Piaf qui va venir boire le café parce qu'elle était seule en train de se soigner. Mais surtout, il faut pas dire que vous la reconnaissez. Et donc, on a vu arriver une toute petite bonne femme qui était Édith Piaf, mais c'est vrai qu'elle était pas maquillée et tout. Et je me souviens qu'elle m'a fait un grand sourire et qu'elle m'a tapoté la tête, et donc voilà, j'ai rencontré Édith Piaf.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras.
Il y avait d'autres chanteurs dans votre enfance qui ont été marquants, ou c'est vraiment elle qui vous reste dans l'esprit ?
Moi, j'étais amoureuse de Luis Mariano quand j'avais 5-6 ans. Ma grand-mère m'emmenait au Châtelet, où j'ai vu le prince de Madrid, Violettes impériales. À chaque fois qu'il y avait une opérette avec Luis Mariano, j'y allais avec ma grand-mère. Donc, Mariano, je le trouvais très beau, et quand j'étais petite, je voulais me marier avec lui. Mais à l'époque, il devait avoir déjà 40 ou 50 ans. Voilà, il était trop vieux pour moi.
La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est droit.
C'est une chanson, Josiane Balasco et Frédéric Pommier, cette rencontre diffusée en juin dernier. Et aujourd'hui, la comédienne redonne vie au souvenir de la même Édith Piaf dans un podcast France Musique, le journal intime d'Édith Piaf par Josiane Balasco. Cet épisode de 10 minutes, c'est à écouter sur la plateforme de Radio France. Demain, Benjamin Biolay choisira du Hubert Mounier de l'affaire Louis Trio.